La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de cette présentation est « La purification du sanctuaire ». Et avant d'entrer dans ce sujet-là, j'aimerais vous présenter ce que l'on peut trouver dans la Bible comme étant les sept phases. Les sept phases de la rédemption. Notre Seigneur Jésus, eh bien, il a été fait chair, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu nous indique. Et après ça, il a vécu sur terre. OK? Et après avoir vécu sur terre, il est mort. Et après la mort, il est ressuscité. Après avoir été ressuscité, il est monté aux cieux. Et après, une fois monté aux cieux, il a commencé la médiation. Il a commencé le rôle de médiateur. Et alors, arrivé ici, j'aimerais faire une parenthèse, de dire que le ministère de la médiation, en fait, inclut la prêtrise du Christ. D'accord? Et qu'il y a une partie de la prêtrise du Christ qui, eh bien, s'étend en fait après son retour. Et Pasteur Alan Stump, je pense, il aura l'occasion de nous parler de ça lorsque il abordera le bouc émissaire. Mais remarquez ici que la septième phase en fait de la rédemption inclut le retour du Christ pour venir chercher les rachetés. Et c'est ici que je voudrais diriger votre attention, chers bien-aimés. À savoir que, juste avant que le Seigneur Jésus ne revienne, et je pense que nous sommes tous au clair sous les passages de la Bible qui abondent en nombre et qui nous disent que Jésus reviendra, n'est-ce pas? Nous sommes tous au clair sous ces passages et remarquez qu'avant que Jésus ne revienne, eh bien, il y a sa médiation. Autrement dit, lorsque Jésus est monté au ciel, c'est pour commencer son œuvre de médiateur entre Dieu et les hommes. Et voyez-vous, la Bible nous parle de manière assez explicite du ministère du Christ dans le ciel. Et j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles en Hébreux chapitre 9. Et que nous considérions ensemble les versets 8 et 9. Où nous rendons-nous? Hébreux, chapitre 9, et considérons là ensemble les versets 8 et 9. Et remarquez cela. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait, ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service. Ici, l'apôtre Paul emploie un langage qui est propre au sanctuaire. Et de manière à pouvoir comprendre ce qui se passe dans le ciel, nous allons nous intéresser à ce qui se passait sur terre. Et j'aimerais juste préciser que cette introduction va être assez basique dès le départ, car il y a peut-être ici ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de quoi que ce soit concernant le sanctuaire. D'accord? Et au fur et à mesure des présentations de ce camp meeting, nous allons tâcher de comprendre ce que signifie réellement l'expiation finale. Car tel est là le thème de ce camp meeting. Mais avant de rentrer dans davantage de textes, j'aimerais faire une clarification terminologique. Qu'est-ce que je viens de dire? Avant de considérer davantage de textes, j'aimerais que nous fassions une clarification terminologique. Je vous invite à vous rendre avec moi en Hébreux 8, verset 2. Remarquez qu'en Hébreux 8, verset 2, il est dit, que Jésus, qui est un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Le terme qui est traduit ici par sanctuaire implique les deux appartements du sanctuaire. D'accord? Donc, lorsque vous voyez sanctuaire ici, ce sont les deux appartements du sanctuaire où, s'il aurait fallu être précis, il nous aurait fallu traduire les lieux saints. D'accord? Maintenant, deuxième clarification. Hébreux 9, verset 8 que l'on a lu. Remarquez, le Saint-Esprit, et je l'ai lu tout à l'heure, montrant par là que le chemin du Saint des Saints. Ici, nous avons un problème. Combien d'entre vous ont le Saint des Saints ici? Dans votre version? Ou le lieu très saint? Lieu très saint, tout le monde, vous avez ça? Alors, vous savez quoi? Le terme grec qui est employé ici, en fait, signifie le sanctuaire, tout simplement. D'accord? Le sanctuaire. C'est-à-dire les deux appartements, en fait. Et continuons en Hébreux 9, verset 12. Il est dit qu'il est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ici, vous avez également Saint des Saints ou lieu très saint, n'est-ce pas? Mais encore une fois, le terme grec qui est employé ici signifie sanctuaire, en fait. D'accord? Et Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ici, la traduction est bonne. Et si on veut être même plus précis, ce serait les lieux saints. C'est-à-dire, cela concerne les deux appartements, en fait. D'accord? Hébreux 10, verset 19, il est dit, « Ayant donc, frère, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. » Là encore, la traduction est bonne. Et s'il nous faut être plus précis, cela concerne les deux appartements du sanctuaire. C'est-à-dire, on pourrait dire de manière littérale, les lieux saints, en fait. D'accord? Et je vais m'arrêter ici. Alors, je vous ai brièvement présenté cette clarification terminologique de manière à ce que nous ne soyons pas confus lorsque nous lisons l'apôtre Paul. Car, voyez-vous, les traducteurs des Bibles, ils ont pour la plupart cette compréhension que le monde évangélique a, à savoir que lorsque Christ est monté au ciel, il serait monté directement, en fait, dans le lieu très saint, en fait. Et pourquoi ils traduisent le très saint? C'est parce que, en fait, pour beaucoup, le ministère du Christ sur terre était représenté par le lieu saint. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Alors, nous avons là ici, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, une représentation du sanctuaire terrestre hébraïque. Et donc, nous avons ici ce que l'on appelle le parvis, où les sacrifices étaient faits. Et là, on a la tente d'assignation qui est composée de deux appartements, en fait. Là, il y a le voile. Il y a un voile ici, un deuxième voile ici et un troisième voile ici. Et donc là, c'est le lieu saint où il y a la table des pains de proposition avec le chandelier, l'autel des parfums et là, l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements. Et bien évidemment, ici, vous avez l'autel des holocaustes avec le bassin où se faisaient les ablutions. Mais voyez-vous, nous ne pouvons pas adhérer lorsque nous lisons la Bible et que nous l'étudions correctement. Nous ne pouvons pas adhérer à l'idée selon laquelle, lorsque Christ est monté au ciel, il serait rentré directement dans le lieu très saint. Et pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a vu Jésus? Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et mes amis, la croix est représenté par l'autel des holocaustes. C'est là que le sacrifice a lieu. C'est là que le sacrifice a lieu, mes amis. C'est là que les sacrifices d'animaux avaient lieu. Les sacrifices qui représentaient le don de Jésus. Par conséquent, le lieu saint ne peut pas représenter le ministère terrestre de Jésus. Et c'est cette vision-là, malheureusement, que beaucoup de traducteurs de la Bible n'ont pas. Et c'est pour cela qu'ils ont mis que Christ est rentré directement dans le lieu très saint. Et après avoir opérer cette clarification terminologique, j'aimerais que nous poursuivions et que nous remarquions que dans le type, le service était complété une fois par année. En effet, considérons Hébreux 9, versets 6 et 7. Alors, avant de considérer ça, j'aimerais vous dire qu'il y avait un service quotidien. Et dans ce service quotidien, eh bien, les prêtres opéraient dans le parvis, mais aussi dans le lieu saint. D'accord? Retenez ça. Et retenons cela. Et lisons le Hébreux 9, versets 6 et 7 maintenant. Or, ces choses étant ainsi disposées, le sacrificateur entre bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Donc, c'est ça, en fait. Continuellement dans le premier tabernacle. Donc, cela représente ici, en fait, le premier appartement. C'est de ça dont l'apôtre Paul parle ici. Verset 7, mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, ici, une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du monde. En fait, dans l'année juive, le dixième jour du septième mois, le souverain sacrificateur rentrait dans l'appartement que l'on appelle le Saint des Saints ou le lieu très saint. Et c'est ce qui nous est aussi dit en Lévitique 16, verset 34. Mais voyez-vous, c'est ce qui se passait dans le type. C'est-à-dire, cela était répété chaque année. Okay? Chaque année, une fois par an, eh bien, le service était complété. Mais dans la réalité, mes amis, le service doit être complété une seule fois. Et ne pas être répété comme cela l'était dans le type. En effet, lisons le verset 12 d'Hébreux 9. Il est dit, il est entré une seule fois dans le sanctuaire, et nous avons clarifié ça tout à l'heure, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et encore, lisons le verset 24 à 26. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, excusez-moi, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints avec un sang autre que le sien propre, puisqu'il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la création du monde. Mais à présent, à la consommation des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché en se sacrifiant lui-même. D'accord? Et encore le verset 10, et chapitre 10 et le verset 3. Remarquez, Hébreux 10, verset 3. Mais dans ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Verset 10 maintenant. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Christ. Donc, voyez-vous, dans le type, le service était répété. Chaque année, il y avait une répétition. Mais en fait, cela était une préfiguration de ce qui devait avoir lieu une seule fois. Et ce, dans le plan de la rédemption. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. L'incarnation, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension, la médiation et le retour du Christ. Une seule fois, dans la réalité, cela a lieu. Il n'y a pas de répétition dans la réalité. Dans l'antitype, le type, c'est ce qui avait lieu chaque année. Mais dans la réalité, cela doit avoir lieu une seule fois, mes amis. Alors, la question que nous devons nous poser est quand, mais aussi pourquoi le souverain sacrificateur de la prêtrise lévitique entrait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Car si nous sommes en mesure de comprendre cela, nous serons alors à même de savoir quand est-ce que se termine cette médiation. Et pourquoi ça nous intéresse de savoir quand est-ce que se termine cette médiation? C'est parce que, rappelez-vous, Lorsque cette médiation se termine, qu'est-ce qui a lieu après? C'est le retour de Jésus. Au verset 2 du 16e chapitre de Lévitique, nous lisons, je vous invite à vendre avec moi maintenant, où est-ce? Lévitique 16, verset 2. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Lévitique 16, verset 2. Et là, nous lisons. L'Éternel dit donc à Moïse, « Parle à Aaron, ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Remarquez que le souverain sacrificateur devait entrer là où se trouvait l'arche uniquement le 10e jour du 7e mois. Et à ce propos, les enfants d'Israël devaient s'humilier, d'après ce que nous lisons. Lévitique 23, verset 29, et il nous est parlé également du jour des expiations. Et là, on nous dit, « Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » D'accord? Donc, il devait avoir lieu une œuvre d'humiliation de la part du peuple. Et remarquez maintenant pour qui, ou du moins, et où, pourquoi l'expiation devait avoir lieu. Pour qui ou pourquoi elle était destinée. Retournons en Lévitique 16, verset 33 maintenant. Et il est dit, il fera l'expiation pour, et comptez avec moi, pour le Saint-Sanctuaire. Il fera l'expiation pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Et encore, retournons au verset 16 du même chapitre de Lévitique 16. Il est dit, « Et il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. » Donc, remarquez que cette œuvre d'expiation ou de purification était le dernier service de la prêtrise lévitique. Et comme pour le type, et nous l'avons dit, la réalité, mes amis, a également besoin d'une expiation ou d'une purification. Et de manière intéressante, nous avons une prophétie dans la Bible qui nous parle de cette purification du sanctuaire. En effet, au 8e chapitre du livre du prophète Daniel, où allons-nous à présent? Daniel, chapitre 8, verset 14. Daniel, chapitre 8, verset 14. Et là, nous lisons que, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La purification du sanctuaire qui est mentionnée ici ne peut être que la purification du sanctuaire céleste, mes amis. Car d'après Lévitique 16, le sanctuaire terrestre était purifié une fois par an. Et est-ce que vous savez combien de jours il y avait dans une année? Dans une année hébraïque, combien il y a de jours? 360 jours. Il y a 360 jours. Or là, on nous dit que le sanctuaire doit être purifié dans 2300 soirs et matins, ou si vous préférez, dans 2300 jours. Donc, on voit bien que cela ne peut pas correspondre, en fait. Si cela correspondait au sanctuaire terrestre, on aurait dû avoir une période équivalente ou inférieure à 360 jours. Mais là, nous avons 2300 soirs et matins. Donc, cela ne peut pas concerner le sanctuaire terrestre. D'autant plus que si nous appliquons 2300 soirs et matins de manière littérale, cela nous donne 6 ans et plus de 3 mois. Vous vous imaginez 6 ans et 3 mois sans que le sanctuaire soit purifié? Non, mes amis, non. Il devait être purifié chaque année. Donc, cela déjà nous montre que cette période ne peut pas s'appliquer au sanctuaire terrestre, mais bel et bien au sanctuaire dans lequel Christ est rentré. Et voyez-vous, une lecture minutieuse du chapitre 8 de Daniel montre qu'il n'y a aucune information concernant la date à laquelle cette période de 2300 soirs et matins doit commencer. Mais lorsque l'ange Gabriel revient voir Daniel au chapitre 9, il lui donne alors davantage d'informations concernant des périodes de temps qui sont liées à ce que nous lisons au verset 14 de Daniel 8. Je vous invite maintenant à vous rendre avec moi en Daniel chapitre 9 et lisons là les versets 24 et 25, s'il vous plaît. Daniel 9, versets 24 et 25. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rétablir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le terme qui est employé au début du verset 24 pour dire que 70 semaines sont déterminées, peut avoir pour signification retranchée. Autrement dit, 70 semaines ont été retranchées. Mais de quoi? Rappelez-vous, nous avons une période de temps qui a été communiquée au prophète en Daniel 8, verset 14. Et c'est de cela que cela a été retranché. Et voyez-vous, il y a une règle d'interprétation dans la Bible, laquelle nous trouvons en Nombre 14, verset 34 et en Ézéchiel 4, verset 6. Et ces textes seront affichés dans quelques instants. D'après Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Et donc, les 70 semaines prophétiques correspondent à 490 années littérales. Et les 69 semaines, qui sont en fait l'addition, qui sont en fait l'addition des 7 semaines et des 62 semaines, cela correspond à 483 années littérales. Mes amis, 490 années littérales, si nous faisons l'interprétation, l'application de la période prophétique, 490 années littérales ont été données d'après l'ange Gabriel pour mettre fin à la rébellion du peuple juif. Mais notez que, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, que ces années furent retranchées. Et comme nous l'avons dit, les 2300 jours prophétiques ou 2300 années littérales constituent l'unique période à partir de laquelle ces années peuvent être retranchées. Et de plus, les 483 années commencent avec le commandement de restaurer et de bâtir Jérusalem. Donc, si nous savons quand ce commandement fut donné, nous aurons alors le point de départ des 490 années, mais également des 2300 années, puisque, rappelez-vous, quelles sont ces 490 années retranchées des 2300 soirs et matins. Et voyez-vous, l'histoire nous dit exactement quand ce commandement fut donné. Le décret que nous trouvons en Esdras, chapitre 7, versets 13 à 26, et je vous donne la référence encore une fois pour que vous puissiez le noter. Nous n'aurons pas le temps de prendre ce texte ce soir. Mais le décret que nous trouvons en Esdras, chapitre 7, versets 13 à 26, fut émis par le roi perse Artaxerxès durant l'automne de l'année 457 avant Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque nous ajoutons 2300 années à moins 457 avant Jésus-Christ, Eh bien, nous arrivons à l'automne de l'année 1844. Et de plus, comme le sanctuaire terrestre était purifié le 10e jour du 7e mois de cette même année juive, eh bien, cela nous amène au 22 octobre 1844, date à laquelle, dans le calendrier grégorien, a eu lieu, dans le calendrier hébraïque, ce jour des expiations. Et la raison, mes amis, pour laquelle nous devons être au clair là-dessus, c'est parce que toutes les fêtes juives qui représentaient, qui étaient des types du ministère de la crucifixion, de la résurrection, de l'ascension, eh bien, elles se sont accomplies au jour et à l'heure, mes amis. Par conséquent, toutes les solennités ou les fêtes juives s'accomplissent au jour, mais aussi à l'heure. Donc, le 22 octobre 1844 est la date à partir de laquelle Christ rentre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Pour faire l'œuvre antitypique qu'accomplissait le sacrificateur dans le sanctuaire terrestre. En ce jour-là, mes amis, le 22 octobre 1844, Christ commença l'œuvre d'expiation ou de purification du lieu très saint du sanctuaire céleste, devant l'arche contenant, entre autres, le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, lesquels sont mentionnés par le troisième ange d'Apocalypse 14, lorsqu'il nous est dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par voie de conséquence, le message du troisième ange que nous lisons en Apocalypse 14, versets 9 à 12, commence sa proclamation le 22 octobre 1844. Et j'aimerais maintenant vous mentionner un point, ou tout du moins aborder un point avec vous. Dans le type, l'œuvre d'expiation revêtait une autre caractéristique. En effet, en Lévitique 23, retournons s'il vous plaît dans ce livre. Où allons-nous? Lévitique 23. Et nous lirons là le verset 29 et 30. Lévitique 23, versets 29 et 30. Et là, il nous est dit que « Car toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » Durant le jour typique des expiations, alors que le souverain sacrificateur était en train de faire l'expiation dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, les enfants d'Israël devaient s'humilier. Ils devaient humilier leur âme devant Dieu afin de recevoir le pardon et la purification de leurs péchés. Et le texte les versets que nous avons lus nous disent d'une manière claire que eh bien, l'âme qui ne faisait pas cela devait être retranchée sans miséricorde du milieu de l'assemblée des enfants d'Israël, ce qui mettait un terme, en réalité, à son temps de probation. Ainsi, il est donc clair que cette œuvre, en lisant ces versets de manière assez simple, il est clair que ces versets nous indiquent qu'une telle œuvre d'expiation comportait une œuvre de jugement. Et j'aimerais vous montrer des textes prophétiques dans le livre du prophète Daniel qui nous confirme cela. Retournons en Daniel, je vous prie, chapitre 8, verset, cette fois-ci du verset 9 jusqu'au verset 14. Où allons-nous maintenant? Daniel 8, verset 9 à 14. Et là, il est dit, « Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. » Remarquez, et je vous ai dit 8 à 14, mais en fait, c'était, je voulais lire 9 et 10 et après vous faire remarquer le verset 14. Remarque qu'avant de nous parler des 2300 soirs et matins, le texte nous parle d'une petite corne. D'accord? Est-ce que c'est noté? Au verset 14, je reprends, il est question des 2300 soirs et matins. Or, juste avant, du verset 9 jusqu'au verset 13, on nous parle de cette petite corne. D'accord? Gardez ça, notez cela. Et rendons-nous maintenant au chapitre précédent, Daniel chapitre 7. Et considérons là les versets 8 à 10. Daniel 7, 8 à 10. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1 000 000 le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Mes amis, une étude minutieuse du chapitre 7 de Daniel ainsi que du chapitre 8 nous révèle que la corne dont il est question dans ces deux chapitres représente la même puissance. Et la raison pour laquelle je vous souligne cela, c'est parce que au chapitre 8, après nous avoir parlé de la corne, eh bien, l'ange nous dit que le sanctuaire sera purifié. Tandis qu'au chapitre 7, après nous avoir parlé de cette même puissance, l'ange nous dit que le jugement doit avoir lieu. Et c'est là, mes amis, ce que je vous disais il y a quelques minutes de cela. C'est-à-dire que cette œuvre de jugement, cette œuvre de purification du sanctuaire, entre parenthèses, céleste, comme nous l'avons vu avec ce que nous avons étudié jusqu'à présent, eh bien, est accompagnée d'une œuvre de jugement. Et c'est ce que la comparaison minutieuse, l'étude minutieuse de Daniel 7 et 8 nous montre. Que cette œuvre de purification est accompagnée d'une œuvre de jugement. Et remarquez que il nous est dit que des livres furent ouverts. Un jugement où nous avons des livres qui sont ouverts. Autrement dit, à partir du 22 octobre 1844, il y a une œuvre d'expiation qui commence et cela est accompagné d'un jugement qui consiste à une examination de ce qui a marqué dans des livres, en fait. Mes amis, la vérité ici est que le jugement dont il nous est parlé en Daniel, c'est-à-dire c'est 10, et qui accompagne la purification du sanctuaire céleste et le jugement qui est annoncé par le message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Lisons-nous en Apocalypse 14, verset 7. Mais qu'il soit clair que ce jugement n'est pas un jugement exécutif. Je dis cela, et je me permets de dire cela, car comme nous l'avons noté, il s'agit ici d'un jugement où des livres sont ouverts. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Apocalypse 20, verset 12, où Jean nous décrit cette même scène. Où allons-nous maintenant? Apocalypse 20 et le verset 12. Et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Le livre de vie, mes amis, contient le nom de tous ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Et je pourrais encore vous donner d'autres références qui vous attestent de cela. Je vous invite à les noter. En Luc, chapitre 10, verset 20. Nous avons également Philippiens, chapitre 4, verset 3. Daniel 12, verset 1. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 13, verset 8. Et Exode 32, verset 32. Tous ces versets que je vous ai mentionnés vous parlent d'un livre qui est le livre de vie, lequel contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur. Mais il n'y a pas qu'un seul livre. Il y a également un autre livre, d'après ce que nous lisons dans le livre du prophète Malachi. Rendons-nous, je vous prie maintenant, en Malachi, chapitre 3, verset 16. Où allons-nous? Malachi 3, verset 16. Et là, nous lisons. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Il nous est parlé ici d'un livre de mémoire, ou, dans une version, de souvenir. Et ce livre, voyez-vous, de mémoire ou de souvenir, est le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom inscrit sur le livre de vie. Et je vous invite à noter également d'autres références qui nous parlent également de ce livre de souvenirs ou de mémoire, qui sont Néhémie 13, verset 14, et Psaume 56, verset 9. Je reprends. Malachi 3, verset 16, Néhémie 13, verset 14, et Nombre, et Psaume tout du moins, 56, verset 9. Sont les trois textes que nous avons dans la Bible, au moins, qui nous parlent du livre de mémoire ou de souvenir. Et comme je l'ai dit, je le répète, ce livre est le récit et contient le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et bien entendu, les paroles inutiles et les mauvaises actions sont également enregistrées d'après ce que nous lisons en Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16. Où allons-nous? Remarquez ce qu'il est dit là, en Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16. Remarquez. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, et c'est tout, soit mal. Donc, il y a un jugement qui se tient avec des livres qui sont ouverts. Et on sait qu'il y a un livre de vie avec un livre de souvenirs. Et dans ces deux livres-là sont inscrits les noms, dans le premier de ceux qui ont servi le Seigneur fidèlement, et dans le second de leurs paroles et de leurs actions. Mais également, le jugement a lieu également pour les actions mauvaises, ce qui implique qu'il y a un recueil. Et remarquez encore, Matthieu 12, versets 36 et 37. Matthieu 12, versets 36 et 37. Matthieu 12, versets 36 et 37. Et là, nous lisons. « Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles, tu seras condamné. » Mes amis, si nous aurons à rendre compte de toutes les paroles vaines que nous aurons prononcées, cela n'implique-t-il pas que cela est enregistré dans un livre? Cela n'implique-t-il pas que nous aurons à rendre des comptes? Et si nous aurons à rendre des comptes, cela veut dire qu'il y a un compte qui est tenu de nos paroles vaines et ainsi que de nos actions. Quelle ne devrait pas être la solennité qui devrait nous saisir lorsque nous ouvrons la bouche pour parler? qui ne devrait pas être notre réflexion avant de poser des actions. Ainsi, mes amis, l'œuvre du jugement dans laquelle Jésus est impliqué avec son Père, car en Daniel 7, il nous est dit que le Fils de l'homme s'est rendu violent ces derniers jours, eh bien, cette œuvre dans laquelle il est impliqué avec son Père depuis le 22 octobre 1844 est, comme nous pouvons le voir, un jugement investigatif. Un jugement investigatif. C'est-à-dire qu'on instruit le jugement. On examine. D'accord? Il ne s'agit pas de l'exécution du jugement. Et il y a un point que j'aimerais souligner, c'est que les personnes qui étaient concernées par ce jugement, qui étaient, eh bien, qui allaient avec cette expiation finale, cette purification du sanctuaire, c'était les personnes qui étaient quotidiennement impliquées dans le service du sanctuaire. Autrement dit, le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui était concerné par cette expiation, mes amis. Et c'est pour cela qu'en 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, où allons-nous maintenant? 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, eh bien, nous lisons ces paroles de l'apôtre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car le temps vient, remarquez, hein? Il dit, car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ainsi, ce jugement investigatif, cette purification du sanctuaire et du peuple concerne uniquement ceux qui ont fait partie du peuple de Dieu, tous ceux qui ont professé en faire partie. Et parmi eux, seuls ceux qui sont venus devant Dieu par la confession et la repentance, et dont les péchés par le sang de Jésus ont été transférés, seront nettoyés et purifiés. Pourquoi? Pourquoi disons-nous cela, mes amis? Pourquoi disons-nous cela? Remarquons Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Il est dit là que, et là, on nous révèle l'objectif de ce sanctuaire. Exode 25, verset 8. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai, où est-ce? À l'extérieur? Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Or, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très intéressant en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6 et au verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6 et au verset 19. Ou tout du moins à partir du verset 19. Où il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » J'aimerais vous souligner la chose suivante. C'est que le sanctuaire terrestre était un type du sanctuaire céleste. Mais il y a une relation. Il y a une relation, mes amis. Également, cette purification du sanctuaire a également une relation à avoir avec chacun d'entre nous. Car l'apôtre Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce qui sous-entend que l'expiation, la purification du sanctuaire céleste doit, eh bien, avoir sa contrepartie dans le temple de notre corps. Mes amis, depuis le 22 octobre 1844, Jésus-Christ est impliqué dans cette œuvre d'expiation, de purification. Et voyez-vous, à tout moment, notre cas peut être étudié. Notre vie, notre caractère, notre conduite, nos motivations peuvent à tout moment être en train d'être pesées dans les balances du sanctuaire céleste. Et voyez-vous, cela serait une chose terrible d'être déclaré trop léger. Cela serait une chose terrible d'être déclaré trop léger. Combien d'entre nous professons attendre le retour de Jésus? C'est tout? C'est tout? Combien d'entre nous professons attendre le retour de Jésus? How many people here profess to wait the return of the Lord? OK. Maintenant, combien d'entre nous nous préparons pour le retour de Jésus? How many people here are preparing themselves for the return of the Lord?
Amen.
Si nous préparons pour le retour de Jésus et que nous croyons que Jésus revient, alors mes amis, Hébreux 9, verset 28 devrait retenir toute notre attention. Où allons-nous? Et là, l'apôtre Paul déclare: de même aussi, Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Remarquez ici que l'apôtre Paul est en train de comparer ou d'opposer deux choses. Il, premièrement, nous parle de Christ qui est apparu pour porter les péchés de plusieurs, et après, il nous parle de Christ qui apparaîtra sans péché. Ces deux pensées-là sont mises en opposition, c'est-à-dire en l'apôtre Paul les contraste pour nous. Qu'est-ce que cela, quel est le message qu'il veut nous faire passer ici, mes amis? Sachant qu'il est dit, de même aussi Christ, ayant été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Ça veut dire qu'il apparaîtra sans péché, ça veut dire qu'il ne portera plus les péchés lorsqu'il apparaîtra, pour se rendre vers ceux qui l'attendent pour leur salut. Qu'est-ce que cela signifie? Mes amis, cela signifie tout simplement la chose suivante. C'est que tous ceux qui seront prêts pour le retour de Jésus seront sans péché.
Amen.
Je reprends cela. Jésus-Christ est venu sur terre une première fois pour porter les péchés. Amen.
Amen.
Mais l'apôtre Paul nous dit que lorsqu'il revient, il ne porte plus les péchés. Et il vient chercher des gens qui l'attendent pour le salut. Donc, cela implique que ceux qui l'attendront pour le salut seront sans péché. Ce seront des croyants dans la vie desquels, des croyants dans le temple desquels, le péché aura été purifié, tout comme il aura été dans le ciel. Autrement dit, ces croyants auront eu leur péché effacé dans les registres des cieux parce que le péché aura été effacé dans leur vie. Et il y a un deuxième texte, mes amis, pour cela. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Où allons-nous? 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Et là, il nous est dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est lui-même pur. » Mes amis, ce texte vient s'asseoir à côté d'Hébreux 9, verset 28, pour nous dire la chose suivante. À savoir que ceux qui sont enfants de Dieu et qui attendent le retour de Jésus seront des personnes qui auront été rendues semblables à Christ. Et ces personnes qui auront cette espérance en eux, eh bien, l'apôtre Jean nous dit qu'ils se purifieront comme lui-même est pur. Mes amis, rappelez-vous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et rappelez-vous que la purification qui a en ce moment lieu depuis le 22 octobre 1844 dans le lieu très saint du sanctuaire céleste doit avoir sa contrepartie dans le temple de notre vie. Autrement dit, mes amis, toutes celles et ceux qui attendent le retour de Jésus, ou si vous le préférez, tous les adventistes, parce que les adventistes sont ceux qui attendent le retour de Jésus, n'est-ce pas? Donc, tous les adventistes, deux points, toutes celles et ceux qui attendent le retour de Jésus, sont censés avoir cette espérance qui les pousse à se purifier du péché. Est-ce que vous vous rendez compte de cela, mes amis? Nous tous qui sommes ici présents, mes amis, nous croyons que Jésus reviendra. Nous croyons que il reviendra lorsqu'il aura terminé son intercession, son œuvre de médiation, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous tous qui sommes ici présents, nous voulons non seulement nous préparer, mais être prêts lorsque Jésus reviendra. Réalisons-nous que cela implique une purification dans notre vie, mes amis? C'est cela, mes amis. C'est cela. C'est pour cela que si jusqu'à présent, nous avons vécu dans le péché, ou si jusqu'à présent, le péché est revenu dans nos vies, nous devons humilier nos âmes, mes amis. Nous devons humilier nos âmes parce que c'est le moment d'humilier nos âmes. Tout comme le faisaient les Israélites le dixième jour du septième mois. Nous sommes dans cette période de temps, mes amis, depuis le 22 octobre 1844. Et Christ revient chercher un peuple dont l'humiliation de l'âme les aura poussés à se purifier du péché. Et c'est pour cela que je vous invite à vous rendre avec moi au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. D'après ce que l'apôtre Paul nous dit en Hébreux 4, verset 16, mes amis. Car Jésus-Christ est non seulement venu sur terre, et nous le verrons durant ce committing, pour nous apporter le pardon de nos péchés. Combien d'entre vous croyez que Christ vous pardonne? Oui, nous tous croyons que Dieu nous pardonne. Mais combien d'entre nous croyons que Christ veut nous purifier du péché? Oui, mes amis, Christ veut également nous purifier du péché. Et celui qui nous apporte le pardon est le même qui veut nous apporter cette purification, mes amis. Alors, c'est pour cela que nous avons besoin de cette œuvre d'expiation, de purification, ait lieu dans nos vies. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.